Il nous annonçait la nouvelle d'une voix calme, puis s'est penché pour caresser Echo, venu se coucher à ses pieds. Il est resté incliné un long moment, sa main ébouriffant la fourrure de son chien. Puis, s'étant enfin redressé, il est parti enfiler son manteau. Il a accepté que je l'accompagne. La voisine, qui aidait Joseph pour ses courses et son ménage, nous a fait entrer. Sur la table recouverte d'une toile cirée, j'ai vu une assiette vide, un verre à demi rempli, une serviette chiffonnée. J'ai suivi mon père jusqu'à la chambre où j'allais voir mon premier mort. Mon grand-père reposait dans son lit, la tête rejetée en arrière, le teint cireux, la bouche ouverte. Mon père l'a contemplé, puis s'est tourné vers moi pour me dire qu'il était heureux que son père soit mort dans son sommeil. « La plus belle façon de quitter ce monde », a-t-il ajouté. Je me suis approché du visage de Joseph, j'ai touché sa joue du dos de ma main, sa peau était glacée. Quel rêve l'avait emporté? Avait-il su qu'il disparaissait? Nous avons enterré Joseph au Père-Lachaise. Nous nous sommes dirigés vers le carré juif où mon grand-père allait reposer à côté de sa femme. J'ai découvert la tombe de Caroline, à deux pas de l'appartement de Joseph, à quelques minutes de l'avenue Gambetta. Encore une question que je n'avais jamais posée. Lors de nos balades parisiennes, mon père m'avait souvent emmené rendre visite aux morts les plus célèbres du Père-Lachaise, mais jamais nous n'avions fait le détour par le carré juif. Pourquoi serait-il allé se recueillir devant la dalle où était gravé le nom de sa mère? Il portait ses morts en lui. Ceux qui lui avaient été les plus chers n'avaient pas de sépulture. Leur nom n'était inscrit sur aucun marbre. À plusieurs reprises, lorsque nous étions passés devant le bâtiment du Colombarium, il m'avait fait part de sa volonté d'être incinéré. Maintenant seulement, je pouvais comprendre la véritable raison de son choix. À peine arrivé à la maison, mon père a saisi Echo dans ses bras et s'est approché de la fenêtre. Il l'a ouverte et s'est avancé sur le balcon pour rester un long moment à contempler la rue. Puis il s'est enfermé comme à son habitude dans le gymnase. À l'oral du bac, j'avais tiré un papier sur lequel était inscrit le sujet à traiter, qui se résumait à un nom, Laval. Paralysé, j'avais bredouillé une phrase sur la collaboration, une seule, qui avait mécontenté mon examinateur. Persuadé d'avoir affaire à un nostalgique de Vichy, je m'étais muré dans un mutisme qui m'avait valu de redoubler ma terminale. Je voulus voir un signe dans cette mésaventure. Je butais encore sur un mur. Il restait un blanc dans mon récit, un chapitre dont mes parents ignoraient eux aussi le contenu. Je connaissais un moyen d'en décoller les pages. J'avais appris l'existence d'un lieu à Paris où je pourrais trouver les informations qui me manquaient. Au cœur du Marais, le mémorial possédait un service de documentation. Les recherches de Berthe et Serge Klarsfeld avaient permis un recensement complet de toutes les victimes du nazisme. En consultant les registres, il était possible de retrouver le nom de chaque déporté, le numéro et la destination du convoi dans lequel il avait pris place, la date de son arrivée au camp et, s'il n'avait pas survécu, la date de sa mort. J'y ai passé une après-midi, à feuilleter l'un après l'autre ces énormes volumes. Au milieu de milliers d'autres, j'ai enfin découvert les noms que je cherchais. Je les voyais écrits pour la première fois. Et j'apprenais ce qu'avait été leur destin. Anna et Simon, après avoir transité par le camp de Pithiviers, avaient été expédiés en Pologne, direction Auschwitz. Ils y avaient été gazés au lendemain de leur arrivée. Le numéro de leur convoi, la date de leur mort, des faits bruts, des chiffres. Les événements sur lesquels j'avais construit mes hypothèses prenaient, à la lecture du registre, un extraordinaire poids de réalité. Plusieurs fois, j'ai relu les noms de ceux qui avaient partagé avec Anna et Simon le terrible voyage, qui avaient connu, comme eux, l'obscurité d'un wagon plombé, l'horreur de la promiscuité, des noms d'hommes, de femmes, et des noms d'enfants, dont le président Laval avait autorisé la déportation au nom du rassemblement familial. Savoir qu'ils avaient été assassinés dès leur arrivée me soulagea d'un poids. Cette date mettait un terme à toutes mes suppositions. Je n'aurais pas à convoquer les images de leurs années de déportation, leur calvaire, leur nuit. Ce que je venais d'apprendre, mon père l'ignorait. Qu'avait-il imaginé de la détention d'Anna et de Simon durant toutes ces années? Qu'imaginait-il encore aujourd'hui quand son regard s'absentait, quand il ne pouvait trouver le sommeil? Le retournement me troublait. Tenu si longtemps à l'écart de ce drame, j'en savais aujourd'hui davantage que mon père sur son secret. Devais-je le laisser dans l'ignorance? Je suis resté longtemps à me le demander, attendant une occasion que la vie saurait bien me fournir. L'année suivante, j'étais reçu au bac avec mention, et je décidai de m'inscrire en faculté. Ma découverte de la psychanalyse durant les cours de philosophie avait été décisive. Plus tard, lorsque l'on me demanderait quelle avait été ma motivation pour entreprendre de telles études, je saurais quoi répondre. Louise, qui savait si bien écouter, m'avait ouvert les portes. Elle m'avait permis de dissiper les ombres, m'avait restitué mon histoire. Je savais quelle place j'y occupais. Délivré du fardeau qui pesait sur mes épaules, j'en avais fait une force. J'en ferai de même avec ceux qui viendraient à moi. Je ne savais pas encore que j'allais commencer avec mon père. Un soir, de retour de la faculté, j'ai trouvé ma mère en pleurs. Echo venait de se faire écraser. Ils avaient rapporté le petit animal à la maison et l'avaient laissé dans le gymnase. Baissant la voix, ma mère me dit que depuis leur retour, mon père n'avait pas quitté la chambre. Elle ignorait s'il dormait ou lisait et n'osait pas le déranger. Il n'avait pas voulu déjeuner, n'avait pas prononcé un mot. Sans doute se sentait-il responsable de cette mort. Il le promenait au bois et mon père n'avait pas jugé utile de le tenir en laisse pour traverser l'une des avenues. Ma mère ajouta qu'elle n'avait jamais vu Maxime aussi bouleversé. Mon père avait surmonté la disparition de son fils et de sa femme. La mort de son chien le faisait s'effondrer. Je suis entré dans le gymnase. Je me suis penché sur Echo, couché sur le côté, la truffe ensanglantée. Mon visage s'est reflété dans ses yeux grands ouverts. J'ai proposé à ma mère d'aller moi-même le déposer chez le vétérinaire qui saurait quoi faire de sa dépouille. J'ai détaché son collier avec précaution. J'ai ébouriffé une dernière fois sa fourrure. Je l'ai enveloppé dans sa serviette. Une heure plus tard, j'étais de retour. Je suis entré dans la chambre. Mon père était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il avait tiré les doubles rideaux, la pièce n'était éclairée que par sa lampe de chevet. J'ai pris place à côté de lui et je lui ai dit mon chagrin. Sans relever la tête, il m'a répondu d'une voix éteinte. Il m'a dit qu'Echo était mort par sa faute. Je me suis entendu lui dire que c'était vrai, qu'il était responsable de cela, mais de cela seulement. Cette phrase m'est venue sans que je l'aie préméditée. Il s'est redressé pendant que je fixais la fenêtre, mon épaule contre la sienne, son regard interrogateur pesant sur moi. J'ai ajouté que j'étais fier de ce dont j'avais hérité, fier qu'il m'ait tous deux transmis cette difficulté, cette question toujours ouverte qui m'avait rendu plus fort. Fier de mon nom, au point de souhaiter en rétablir l'orthographe d'origine. Cela aussi m'a échappé, et mon père a soupiré, comme si j'anéantissais des années d'efforts. Après une profonde inspiration, j'ai continué. J'ai prononcé le nom d'Anna et celui de Simon. Surmontant ma crainte de le blesser, je lui ai livré tout ce que j'avais appris, ne laissant dans l'ombre que l'acte suicidaire d'Anna. Je l'ai senti se raidir, serrer ses mains sur ses genoux. J'ai vu blanchir ses jointures, mais, décidé à poursuivre, je lui ai donné le numéro du convoi, la date du départ de sa femme et de son fils pour Auschwitz, celle de leur mort. Je lui ai dit qu'il n'avait pas connu l'horreur quotidienne du camp. Seule la haine des persécuteurs était responsable de la mort d'Anna et de Simon. Sa douleur d'aujourd'hui, sa culpabilité de toujours ne devait pas permettre à cette haine d'exercer encore une fois ses effets. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis levé, j'ai tiré les doubles rideaux, ouvert la porte et demandé à ma mère de nous rejoindre. Et j'ai tout répété afin qu'elle sache, elle aussi. Mon père est sorti de sa chambre pour dîner avec nous. Au moment où je partais me coucher, il m'a arrêté d'une pression légère de sa main sur mon épaule.